With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Louis.
Il y a quelques années, j'ai vécu au Qatar. Oui, au Qatar. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'au Qatar, comme dans la plupart des pays arabes musulmans, le jour saint, c'est le vendredi. C'est l'équivalent de notre dimanche, si vous voulez. Et donc au Qatar, le week-end, c'est pas samedi-dimanche, c'est vendredi-samedi. Je vous dis ça parce que moi, bizarrement, ça a totalement chamboulé ma perception du travail. De manière très étrange, le fait de commencer ma semaine de boulot le dimanche me donnait l'impression qu'elle était plus courte. C'est un peu comme si mon cerveau était resté programmé sur notre schéma de semaine classique qui commence le lundi. J'arrivais pas à me dire que le dimanche, c'était le début de la semaine. Pour moi, le dimanche, ça reste le dernier jour de la semaine. Et donc, même s'il est travaillé, j'ai l'impression que ça compte pour du beurre. Ce qui fait que j'avais toujours l'impression que la vraie semaine de travail ne comptait que 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et hop, jeudi soir, c'est le week-end. Je sais, ça paraît un peu farfelu, mais la conséquence de tout ça, c'est que ça m'a totalement réconciliée avec le dimanche. Comme beaucoup, c'est un jour que je redoute, qui marque la fin d'un cycle. C'est la semaine qu'on n'a pas vu passer et le début d'une autre avec le travail qui reprend. C'est le fameux blues du dimanche. Dans cet épisode, Marion Botorel essaie de comprendre d'où vient ce sentiment. Pourquoi nous sommes si nombreux et nombreuses à y être sensibles et est-ce qu'il y a des solutions pour l'atténuer? Il a été diffusé pour la première fois le 16 mai dans le podcast Émotion. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
On est dimanche soir, il est 18h, et vous savez que déjà, dans moins de 14h, ce sera le retour du lundi. En pensant à ce moment que l'on vit chaque semaine, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous faites partie de cette moitié de Français et de Françaises? Celle qui, prostrée par l'angoisse, ne peut plus bouger de son canapé, tétanisée par la semaine qui recommence. Moment que l'on appelle communément le blues du dimanche soir. Mais ce blues du dimanche soir, de quoi exactement est-il le nom? Pourquoi sommes-nous si nombreux et nombreuses à y être sensibles? Et est-ce qu'il existe des solutions pour l'atténuer, ce blues? Autant de questions auxquelles le docteur Florian Ferreri m'a donné des réponses. Il est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, un hôpital universitaire parisien spécialiste dans la prise en charge des troubles dépressifs et anxieux. Florian Ferreri a par ailleurs écrit un livre, « Vaincre le blues du dimanche soir », à quatre mains avec Gauthier Bouchot, un professeur des écoles particulièrement atteint par ce blues du dimanche. Ensemble, ils ont tenté de définir ce phénomène pour proposer des solutions.
Alors, je me suis intéressé au blues du dimanche soir parce que je me suis aperçu qu'un certain nombre de personnes s'en plaignaient, sans forcément venir consulter pour ça, mais s'en plaignaient. Et puis, dans mon réseau amical, personnel, j'ai commencé à poser la question. Je me suis rendu compte que c'était une réalité. C'est-à-dire, sans être forcément grave, il y avait, pour certaines personnes, une réelle souffrance à supporter le dimanche.
Le blues du dimanche est très répandu, en tout cas si l'on en croit plusieurs sondages. Il toucherait la moitié de la population française, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, ce serait près de 80% des Américains et des Américaines actifs qui seraient concernés. Il y a donc beaucoup de sondages, mais peu d'études. C'est ce qu'a constaté le docteur Ferreri, Le psychiatre a du coup interrogé des amis, des patients, des confrères, le plus de monde possible pour mieux cerner ce vague à l'âme.
Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est le fait que ça parle ou ça parle pas. C'est-à-dire, il y a des personnes à qui on explique le phénomène et ça ne leur dit rien du tout parce que ça ne correspond pas à un sentiment qu'ils ont et ils trouvent ça même assez curieux de s'intéresser à ce phénomène. Et ça, c'est en contraste avec les personnes qui disent « Ah, mais moi, c'était terrible. Je me rappelle quand j'étais au collège, le dimanche était horrible. Dès que mes parents mettaient cette émission, je savais que c'était la fin du week-end. Moi, j'étais prêt à en pleurer le soir. Je ne pouvais plus rien faire. J'arrivais plus à profiter. C'était atroce. » Donc, une description cataclysmique de cette problématique. Et entre ces deux extrêmes, bah, on voit que certains week-ends sont particulièrement difficiles, que ça dépend de comment on s'est organisé pour qu'il se passe bien ou pour qu'il se passe pas bien, que derrière le syndrome, il y a de multiples cause, il y a moyen de se comprendre et de résoudre certaines difficultés.
Le terme de Sunday neurosis, littéralement la névrose du dimanche, a été pour la première fois posé en 1946 par Viktor Frankl, c'était un psychothérapeute autrichien. Presque 70 ans plus tard, il n'y a pas d'études épidémiologiques sur le sujet. Car en fait, on ne peut pas qualifier le blues du dimanche soir de pathologie, de maladie, ni même de trouble. Alors comment le définir ?
Le blues du dimanche, c'est un sentiment d'ennui, de morosité qui nous envahit le dimanche, plutôt dans l'après-midi, qui s'accompagne également d'un sentiment de lassitude, d'une difficulté à initier les choses, et qui, chez certaines personnes, s'accompagne également d'une tristesse, d'un sentiment d'inutilité, d'impossibilité à faire les choses. Ça, c'est pour le registre psychologique. Mais il y a aussi des manifestations qui peuvent être physiques, notamment une tension musculaire, un inconfort global, digestif, parfois même un peu douloureux, où la personne qui ressent ça se sent à la fois inconfortable au niveau psychique, mais également en difficulté au niveau physique, avec une sorte d'entre-deux, un moment dans cette journée où on se sent utile à rien et capable de rien. On se reproche de ne pas faire des choses. La difficulté à profiter du moment, parce qu'on est déjà envahi par des ruminations, des préoccupations. Et finalement, un moment dans le week-end, on n'est pas tout à fait soi-même, on n'est plus disponible à la fois pour soi pour faire des choses et on n'est plus disponible pour les autres, on se renferme un petit peu.
Ce sont autant de symptômes qui rappellent la dépression, mais sans l'être tout à fait. Ce sont des manifestations dépressives, c'est-à-dire qu'elles restent temporaires. Florian Ferreri parle donc plutôt de mélancolie passagère, d'anxiété anticipatoire avant le lundi, et ça engendre beaucoup d'émotions simultanées qui peuvent venir nous paralyser le dimanche soir.
Alors les émotions ressenties sont l'ennui, des fois la tristesse, la morosité, le sentiment d'inutilité, d'incomplétude, donc on voit que ce sont énormément d'émotions. Quand ces émotions nous envahissent, elles sont traitées par le cerveau, qui déclenche un ensemble de phénomènes, physiologiques. Et parmi ces phénomènes physiologiques, il y a la réponse à l'anxiété, la réponse au stress. Et on sait que le corps exprime aussi les difficultés du cerveau. Et elle l'exprime par toute une physiologie qu'on ne maîtrise pas, le transit, les maux de ventre, la fatigue, la tension, la crispation musculaire sont des phénomènes qu'on peut tout à fait avoir quand on est dans une situation de pression psychologique. Donc le corps et l'esprit sont souvent scindés quand on en parle, mais en fait, on est une seule et même personne. Et quand il y a une souffrance, l'expression peut être tout à fait générale ou en tout cas corps entier.
Et sans forcément aller jusque-là, on peut devenir subitement râleur, râleuse, dès 16h ou bien à 20h, tous les dimanches, ou seulement le premier du mois. Bref, il n'y a pas une seule façon de vivre son blues du dimanche. Mais certains et certaines d'entre nous y sont plus exposés. Le docteur Ferreri a isolé quelques profils types.
On s'est aperçu que c'était plus fréquent chez les personnes qui subissaient un petit peu leur agenda et les contraintes qu'elles avaient. Donc très clairement, les enfants d'âge scolaire, collège, lycée, où c'est vrai que le rythme est imposé par d'autres personnes que par eux-mêmes. Donc ça, c'est à ce moment-là où on est à la fois plus auto-centré, c'est-à-dire on pense à soi et à son avenir, et en plus on ne maîtrise pas l'emploi du temps. Le week-end est attendu toute la semaine, mais au sein de ce week-end, certaines personnes le gèrent différemment. Et on se retrouve acculé en cette fin de week-end, donc on va pas bien, mais authentiquement on va pas bien, parce qu'il y a des raisons de pas aller bien, c'est que tout ce qui nous reste à faire sur cette fin de week-end est pas faisable, globalement. Les parents, l'environnement, les contraintes des repas de famille, les repas qui durent, la nécessité de faire du sport font que le temps, on l'a pas forcément. et on l'a plus en tout cas, en fin de dimanche, et ça, ça peut oppresser.
Et puis certains traits de notre personnalité peuvent aussi favoriser l'arrivée de cette mélancolie passagère.
Donc oui, il y a des personnes qui sont plus à risque. Les personnes anxieuses sont des personnes à risque. Les personnes un peu obsessionnelles, qui apprécient de bien maîtriser leur environnement, de tout prévoir, de tout planifier, vont avoir tendance à se projeter assez loin dans l'avenir et de se projeter avec une connotation un petit peu préoccupée de l'avenir. Ces personnes-là sont sujettes le dimanche à commencer à faire tout le planning de la semaine et à avoir un ensemble de difficultés à surmonter plutôt qu'un ensemble de choses à faire classiques. Il y a aussi des personnes qui sont, on va dire, plus auto-centrées, certains diraient même narcissiques, et qui vont, à ce moment-là du week-end, commencer à se comparer, à regarder les photos postées sur les réseaux sociaux d'un tel et d'un tel, et commencer à mal vivre le fait qu'un tel a eu un week-end super, un tel est à tel endroit, un tel a une vie bien meilleure que soi-même, et vont avoir des difficultés d'ajustement qui va les plonger dans une sorte de morosité, une sorte de jalousie inconsciente.
Ce que je comprends, c'est que la manière d'occuper nos week-ends, et nos modes de vie d'ailleurs, peuvent nous prédisposer à ce blues du dimanche.
Les profils types sont chez l'adulte. La personne qui attend beaucoup son week-end, qui va avoir envisager son week-end sur un mode assez festif, de loisirs, de sport, et ça c'est très bien, et qui va avoir en fin de week-end deux choses. D'une part, les contraintes qu'il a repoussées, qu'il va devoir faire, et également l'espèce de nostalgie et de deuil de tout ce qu'on a fait de chouette et il va falloir attendre pour refaire des trucs sympas. Donc ça, c'est un peu le deuil du week-end, mais qui arrive un petit peu trop tôt. C'est-à-dire, au lieu de se dire « on a passé un super week-end », on se dit « ah bah c'est déjà fini, c'est le verre un petit peu à moitié vide ». Chez l'adulte, il y a l'autre profil qui est le bosseur hyper connecté, préoccupé, qui va être finalement tout au long du week-end, va être encore dans sa préoccupation du travail à vouloir éventuellement surveiller ses mails, surveiller des informations qui proviennent du travail et le vivre un petit peu douloureusement, c'est-à-dire qu'il va s'obliger à pas le faire parce que c'est le week-end et que c'est sacré. Et en même temps, son cerveau est déjà en train de travailler dessus, donc ça pose problème parce qu'il n'est pas disponible pour son entourage et pour lui-même.
Alors bien sûr, le dimanche soir, c'est le plus souvent la perspective de retourner au bureau qui crée cette boule que l'on sent pesante dans notre ventre. Mais le docteur Ferreri a aussi découvert qu'il touche des gens qui s'estiment heureux et heureuses au travail.
Quand on pense blues du dimanche et préoccupations, on se dit « bah c'est parce que le travail, ça va pas ». Et en fait, quand on écoute les gens, c'est pas ça la cause principale. Ça peut l'être, effectivement, si on a un environnement un petit peu harcelant ou une grosse pression, ça peut être le cas, mais il y a énormément de gens qui disent « moi, j'aime mon travail, c'est pas le problème ». Mais pour autant, ça me bousille le dimanche de soit d'y penser, soit de me projeter trop rapidement dans les contraintes professionnelles. C'est plus une histoire de contraintes, et les gens vont vous dire « une fois que j'y suis, j'y vais, c'est pas un problème ». Mais le fait d'y penser, d'y penser sans être dans l'action, c'est-à-dire qu'on est envahi et soumis à sa pensée, fait que c'est inconfortable pour certaines personnes.
Que vous soyez étudiant, salarié ou même indépendante comme moi, sachez qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne. Ça n'a même pour certains rien à voir avec leur activité professionnelle, car
on peut avoir le blues du dimanche soir en étant retraité.
Le blues du dimanche soir peut effectivement toucher les personnes qui sont retraitées. Pour une personne retraitée, le week-end peut être un moment particulier où il y a des visites, par exemple, où il y a plus de vie dans son entourage. Donc effectivement, ce ne sont pas les personnes les plus souvent touchées qui s'en plaignent le plus, mais bien qu'on soit retraité et que les journées sont censées être assez proches, le week-end reste quand même différent de la semaine.
Au-delà de notre activité professionnelle, le contexte économique joue aussi un rôle. Selon une étude menée par la Fondation pour la santé mentale Mind, un quart des Britanniques disent davantage subir ce blues en période d'incertitude économique ou de récession. Et vu qu'on parle du contexte actuel, le docteur Ferreri estime que le télétravail ne protège pas de cette mélancolie. Car l'effacement des frontières entre nos vies professionnelles et personnelles contribuerait même à le renforcer. Avant même qu'elle n'ait commencé, la semaine nous apparaît comme une montagne de choses à faire et de contraintes quasiment infranchissables. Pour résumer, quand on a le blues du dimanche, c'est qu'on répond souvent à l'une de ces trois situations.
La première cause sont les personnes sensibles au stress, anxieuses, qui vont avoir tendance à anticiper, voire à grossir les difficultés à venir. Ces personnes-là vont être trop rapidement projetées dans les contraintes à venir. Au lieu de profiter de l'instant présent, elles vont être déjà dans les difficultés à venir. Et là, les manifestations sont vraiment plus du registre de la préoccupation, de la crainte que la semaine se passe pas aussi bien que ce qu'on souhaiterait, et avec un envie d'anticipation et de savoir déjà ce qui va se passer. Quand on se met à stresser, alors déjà le stress, C'est quelque chose de physiologique. C'est bien d'être alerté quand il y a un danger, et c'est bien d'avoir une réponse physiologique à ce danger. Là où c'est embêtant, c'est quand il devient invalidant, gênant, soit parce qu'il nous prend de l'énergie, soit parce qu'il nous tétanise face à la situation. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le blues du dimanche? On ne sait pas. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a probablement des facteurs qui sont liés à la sécrétion de neuromédiateurs, sérotonine, dopamine.
Les neuromédiateurs, ce sont des molécules chimiques chargées de transmettre des messages d'un neurone à un autre. Les deux cités par le professeur Ferreri, sérotonine et dopamine, agissent respectivement sur notre gestion de l'anxiété et pour la dopamine, sur nos comportements. C'est le cas, par exemple, de l'attention ou de la motivation. Autant d'indicateurs qui sont à leur plus bas niveau quand on a vraiment le blues du dimanche soir. Difficile, oui, de se sentir serein quand on s'est levé à midi, qu'on a ensuite traîné, puis finalement abdiqué en allant se recoucher. Ce déphasage du week-end, c'est d'ailleurs le deuxième facteur du blues du dimanche soir.
Par rapport à ces rythmes, le week-end, c'est un rythme qui est quand même différent de la semaine. On va avoir tendance à se coucher plus tard, éventuellement à sortir quand c'est possible, à faire la fête, certains à rentrer très très tard. Et le lendemain, on va se décaler un petit peu, se lever plus tard. Et le fait, alors qu'on se lève en semaine tous les jours à 7 heures pour un lycéen ou un étudiant ou même pour un travailleur, et le week-end de se lever à 10h, 10h30, est chez certaines personnes quelque chose de problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un éveil de qualité. La personne va être dans une espèce de brouillard à la fois intellectuel et physique où elle va pantoufler, mais sans avoir choisi de pantoufler à l'avance. C'est-à-dire que la journée passe avec un ennui, une morosité, sans être reposante. Et on arrive en fin de journée, on regarde en arrière, on dit « mais moi, j'ai rien fait de mon dimanche, alors que j'aurais souhaité faire des choses ». Et pire que ça, en plus, se coucher même des fois beaucoup plus tard que ce qu'on aurait souhaité, parce qu'on est dans un faux rythme, et le moral en prend un coup, et on n'est pas bien, on est inconfortable. Alors, la semaine repart, et finalement, ça finit par lancer les émotions positives. Mais ça peut être une réalité compliquée.
La médecine étudie les rythmes biologiques à l'œuvre dans notre organisme. Cette branche de la médecine s'appelle la chronobiologie. Et ces spécialistes alertent sur les risques de dérégler notre rythme, et en particulier le week-end. Car pour certaines personnes, décaler le réveil de plus de 2 heures par rapport à l'horaire habituel en semaine peut avoir des conséquences sur notre morale, voire sur notre santé. Et est-ce que justement, quand on fait un peu la fête, quand on se lève un peu plus tard, qu'on met pas le réveil, par exemple, le dimanche, est-ce que c'est comme si notre corps était dans un espèce de jet lag, de décalage horaire? Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement?
C'est tout à fait ça. C'est le jet lag transitoire. Encore une fois, c'est pas une réalité pour tout le monde. Certaines personnes font la fête, se lèvent plus tard, se réveillent, la journée est bien entamée, mais c'est pas un problème. Ils vont faire des choses sur le temps qui leur reste, et de toute façon, ils ont tellement bien profité de leur samedi qu'ils sont ravis de comment s'est passé leur week-end, il n'y a aucun problème. Là, on parle vraiment des personnes qui ont l'impression d'avoir gâché le dimanche, quand bien même elles ont bien profité du samedi, et l'impression que c'est inconfortable. Il y a à la fois le fait de se lever plus tard, et pour certaines personnes, de rajouter des temps de sieste qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ou qui sont trop longues. Chez ces personnes qui sont sensibles au changement d'heure, finalement, le repos supplémentaire n'est pas profitable. Il vaut mieux un petit déficit de sommeil transitoire qui est mieux supporté qu'un excès de sommeil ou un sommeil décalé qui va donner un faux rythme difficile à supporter.
Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans les deux catégories précédentes, il y a bien un troisième facteur au blues du dimanche. Et cette fois, rien de biologique.
La troisième cause, c'est les personnes qui ont finalement un dimanche un peu pourri, mais parce qu'elles l'ont un petit peu cherché. C'est-à-dire qu'elles ont réservé au dimanche tout ce qu'elles n'avaient pas envie de faire dans la semaine ou tout ce qu'elles n'avaient pas envie de faire en début de week-end. Alors, encore une fois, pour les jeunes, c'est beaucoup centré sur les devoirs, mais pour les adultes, c'est pareil. C'est tel courrier qu'il faudrait faire, on ne le fait pas, telle facture à faire, et puis les tâches ménagères, hein, le repassage, le ménage, surveiller les devoirs, les enfants, un ensemble de choses qui ne sont pas forcément sexy sur le papier, mais qu'il est quand même nécessaire de faire. Si on réserve tout ça sur le dimanche après-midi, bah, effectivement, le dimanche après-midi, on n'a pas trop envie de le voir. Donc, là, il y a un travail un petit peu d'organisation en amont, de partage des tâches aussi. On sait qu'il y a cette problématique-là qui est importante, et le tout faire pour dégager du temps sur le dimanche pour que ça redevienne un temps agréable de détente ou de loisir.
Ce temps de détente et de loisir, c'est finalement très récent, car ce n'est qu'en 1906 que les Français et les Françaises obtiennent définitivement leur dimanche. Alors, pour être tout à fait précise, on l'avait déjà obtenu auparavant, mais ce droit nous avait été ensuite supprimé en 1880. Les syndicats et l'Église demandent donc le repos hebdomadaire, ou plutôt la cessation du travail, mais le temps n'est pas encore au chill. Le clergé espère plutôt attirer les fidèles à la messe. Et petit à petit, nos ancêtres s'en sont détachés, ont davantage cherché à se divertir et puis à se reposer le dimanche. Alors est-ce que finalement, ce blues du dimanche, c'est un phénomène assez récent, voire générationnel ?
Dans les causes du blues du dimanche, il y a pour certaines personnes l'incapacité à s'ennuyer. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'ennui comme un temps à soi, un temps de réflexion, un temps de lâcher prise, l'ennui est quelque chose qui est terrible, envahissant, inutile. Donc il y a l'évolution de la société, c'est-à-dire le fait d'avoir ce jour chômé. Il y a le fait quand même, et ça c'est plutôt positif, de s'écouter et de se dire on peut vivre mieux avec des petites choses du quotidien, des petits conseils. Et alors après, certains disent oui, mais alors les gens s'écoutent trop en ce moment. C'est excessif. On a le droit de décrire des difficultés, d'être tout à fait conscient qu'on peut le dire sur le ton que c'est une plainte relative, et en même temps vouloir ne pas mieux profiter de cette journée-là. C'est pas une injonction à être au top de sa forme tous les dimanches. C'est si on en souffre, on peut essayer de faire de la prévention pour le prochain week-end.
Donc un conseil, le dimanche, on coupe Instagram. On s'ennuie un coup aussi pour voir ce que ça donne et on sort s'aérer tant qu'on peut. On peut aussi varier ses activités car les dimanches ritualisés sont le meilleur moyen de préparer le terrain au blues. Par exemple, on n'est pas obligé d'aller déjeuner chez ses parents tous les dimanches. 1 sur 2, c'est déjà bien. On l'a vu, il y a 3 situations qui prédisposent au blues. Quelles sont donc les solutions pour chacun de ces cas? Et est-ce qu'il faut se résoudre, au malheur, à mettre le réveil le dimanche matin?
Alors, la solution du réveil le dimanche, c'est pour ceux qui souffrent des problèmes de synchronisation. Mais oui, vraiment, chez ces personnes-là, 2 choses. Le réveil le matin pour ne pas se décaler de plus d'une heure, une heure et demie par rapport à l'heure habituelle. À mettre en parallèle avec l'heure à laquelle on s'est couché quand même. Et d'éviter les siestes trop longues, notamment favoriser la micro-sieste de 20 minutes si on a vraiment un coup de barre et on est là pour se reposer, à la sieste de plus d'une heure et demie, parce que dès qu'on dépasse une heure et demie, ça désynchronise la nuit à venir. Et là, on peut être authentiquement arrivé de week-end, fatigué à son travail, ce qui n'est pas le but.
Et quelles sont les autres solutions pour les autres types de personnes concernées par le blues du dimanche ?
Le premier pas vers la solution, c'est d'essayer de bien cartographier pourquoi on est comme ça. Les causes peuvent être multiples. Il peut y avoir à la fois de l'organisation et du deuil du week-end, mais en tout cas, d'essayer de voir pourquoi on est comme ça. On a parlé du rythme, ok. Il y a la question d'organisation, qui est un point fondamental, notamment quand on a des enfants, il faut les aider à s'organiser. C'est pas eux de s'organiser, il faut les aider. C'est de dire, voilà, ok, tu détends, tu te reposes, mais sans forcément faire ce que tu as à faire, j'aimerais qu'on regarde ce qu'il y a à faire et qu'on essaye de se donner un planning de temps que chaque matière nécessite pour bien faire les choses avec eux. Pour les personnes qui manquent de rythme, sortir, activité physique. Pour les personnes anxieuses, profiter du dimanche où ils sentent que la pression monte par sanctuariser un moment à eux de relaxation, de détente, de temps pour soi, de travail sur sa respiration pour essayer de se relaxer. Et puis, si vraiment c'est la solitude qui nous pèse, pourquoi ne pas, alors la période actuelle ne s'y prête guère, mais on peut tout à fait mettre des temps sociaux qu'on a l'habitude de mettre plutôt le vendredi soir et le samedi soir, le dimanche en fin d'après-midi, sans finir trop tard. Et ça peut être tout à fait convivial et sympathique. On peut s'autoriser à faire des choses très sympas le dimanche en ayant conscience qu'il y a une fin et qu'on ne peut pas se décaler autant que le vendredi et le samedi. Sinon, les réveils sont difficiles.
Alors même si le blues du dimanche reste anecdotique, passager, même sujet de blague, on s'en préoccupe. Car comme le dit le docteur Ferreri, c'est quand même dommage de subir 52 jours dans l'année.
Venez d'écouter Émotions emportées. Cet épisode a été tourné et monté par Marion Boutorel et c'est Jean-Baptiste Aubonnet qui l'a réalisé et mixé. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotions. Cet épisode est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. C'est Nicolas Degélis qui a composé la musique du générique d'Émotions. Si cet épisode vous a plu et que la question de l'équilibre entre temps libre et temps de travail vous intéresse, nous vous recommandons d'écouter « Où est passé le temps libre ?», un épisode de notre podcast « Travail en cours » réalisé par Adrien Nazelli. Émotions est un podcast de Louis Média. À bientôt.
Thank you. Bonjour, je suis Agathe Le Taillandier et on voulait vous parler de Pépite, le nouveau podcast culturel de Louis Média.
Et moi, je suis Sébastien Thème et avec Agathe Le Taillandier, chaque lundi, on va chez des artistes qui nous touchent et que l'on a envie de vous faire découvrir.
On veut explorer leur univers, leur sensibilité et raconter le temps d'une conversation intime, leurs histoires.
Pépite, c'est le nouveau rendez-vous culturel de Louis Média où l'on rencontre celles et ceux qui font la culture de demain. Et c'est tous les lundis.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.